Vous écoutez RTL.
RTL.
Then, less than a year after
plus d'un an après la mort de Kennedy,
Mary, too,
Marie aussi a trouvé la mort.
It's an incredible story.
C'est une histoire incroyable.
The Washington police
la police de Washington n'avait aucune piste sur cette affaire.
They didn't know about
ce qu'il y a à savoir de l'affaire Marie et Kennedy, son journal, les fouilles de la CIA chez elle, la seule piste
was on Ray Crumb.
Était Ray Crumb.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une date que personne n'a oubliée, le 22 novembre 1963. JFK, John Kennedy, est assassiné à Dallas. Un demi-siècle plus tard, on ne sait toujours pas qui a commandité ce meurtre politique. L'histoire d'une femme peut éclairer ce mystère. Elle s'appelle Marie Meyer et notre invité, le journaliste Jean Le Sieur, a enquêté sur celle qui fut pendant 4 ans l'amour caché du président américain. Jean Le Sieur, avant d'être amant, ils étaient amis. Ils se connaissaient depuis longtemps, JFK et Marie Meyer.
Ils se connaissaient depuis l'adolescence. Ils avaient 3 ans d'écart. Ils se sont connus. Tous les deux étaient de riches et belles familles de la côte est des États-Unis. Donc ils sont allés aux meilleures écoles privées. Là où le week-end, les jeunes adolescents se croisaient, flirtaient un petit peu, pas trop, mais quand même un petit peu. Et donc ils se sont connus. Je crois qu'elle avait 14 ans et lui 17 ans, mais ils se sont connus comme on connaît des adolescents et
ouais, que l'on comme fréquente, des copains qui font partie du même copains. Monde.
Voilà. Comment ils vont devenir amants tous les deux en 1959 ?
Mais alors ils sont devenus amants au bout d'un certain temps, parce que d'abord il y a dans la vie de Marie Meyer, mais aussi dans la vie de John Kennedy, il y a des épisodes qui, enfin c'est ça, un romancier aurait du mal à faire croire à ses lecteurs la vérité de cette histoire, parce que ils ne cessent de se côtoyer depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Marie Meyer présente même John Kennedy à son mari en 1945. Alors le mari, on peut parler du mari déjà, mais dont le parcours est assez parallèle d'ailleurs à celui de John Kennedy. Vous avez affaire à deux personnages qui sont des héros de guerre dans le Pacifique, qui tous les deux échappent de manière miraculeuse à la mort, et qui ensuite, sortis de cette épouvantable tragédie, vont chacun leur chemin. Alors Kornmayer, lui, qui va devenir le mari de Marie, lui rêve de carrière universitaire, intellectuelle, un peu journalistique, mais dans des revues un peu savantes. John, lui, est journaliste et ils se rencontrent tous les deux à la conférence de San Francisco en 1945, la conférence qui jette les bases des Nations Unies. Mmh. Et Kornmayer est là en tant que représentant des anciens combattants américains pour participer à cette conférence. Et c'est une vedette un peu, c'est un people déjà, parce que sa conduite pendant la guerre a été absolument héroïque. Il a d'ailleurs perdu un œil. Et John Kennedy, qui a survécu aussi à un naufrage dans le Pacifique, est là, lui, en tant que correspondant d'une chaîne de journaux. Et il connaît Marie Meyer, il se retrouve là, puisque après ses années adolescentes dans les mêmes écoles, et John Kennedy veut interviewer Kornmayer, qui vient de donner une interview au New York Times, et John Kennedy est un peu jaloux du New York Times, et il demande à Marie, qui vient d'épouser Kornmayer, d'intervenir pour que Kornmayer donne à John Kennedy une interview. Ce que Kornmayer refuse, pour des raisons qui sont peut-être explicables, mais enfin, je n'en sais rien. Kornmayer n'aime pas John Kennedy, qui le lui rend bien.
Dès le début.
Alors que ces deux personnages se retrouvent à la couverture de Life Magazine, quelques semaines ou mois plus tard, parmi 8 autres personnages qui sont désignés, ces 10-là, ouais, comme ceux qui vont faire l'Amérique de demain.
Kornmayer qui va devenir un membre influent de la CIA.
Alors, pas encore. Avant cela, il est...
On ne va pas avoir le temps de raconter forcément toutes les étapes de son destin.
Pour expliquer le parcours, parcours des idées de ces gens-là. Ouais. Kornmayer, pendant un certain temps, est un idéaliste pacifiste qui rêve d'une fédération mondiale des États. Mmh. Voilà. Et puis, petit à petit, il se trouve que l'organisation dont il est le secrétaire général est un peu infiltrée par les communistes, et petit à petit, il devient de plus en plus anticommuniste. Il rencontre Allen Dulles, qui est le directeur de la CIA. Les deux hommes sympathisent, et Kornmayer, passe d'un rêve de fédéralisme mondial à un rêve de gouvernement mondial. Alors là, on est dans un autre registre, puisque le gouvernement mondial, pour lui, ce sera la CIA. Alors,
Jean Le Sieur, vous publiez Un meurtre à Georgetown. C'est aux éditions
L'Artilleur.
De L'Artilleur. Et vous n'avez pas répondu à mes questions. Comment et quand ils deviennent amants, ces deux-là, John Fitzgerald Kennedy, parce que c'est quand même là que tout va basculer, et Mary Meyer, et qu'est-ce que ça va provoquer ?
Alors, ils deviennent amants longtemps après la période que je viens de décrire. Alors, Mary, elle, aux côtés de son mari Cord, est très irritée par l'évolution de la carrière de son mari, car elle reste fidèle à ses idéaux d'adolescente et de jeune femme. Et elle est plutôt pacifiste, plutôt, on dirait, de gauche aujourd'hui. Alors que Kornmeyer, plus il avance dans la carrière à la CIA, plus il se rend complice des activités plus ou moins avouables de la CIA à l'époque, qui renverse des gouvernements étrangers, qui assassine des gens. Et Mary Meyer ne supporte pas ça. Donc elle s'éloigne petit à petit de son mari, d'autant plus que le couple vit un drame épouvantable avec la mort dans un accident de voiture d'un de leurs trois enfants.
Et donc Mary Meyer va voir en John Fitzgerald Kennedy un peu d'aventure, un peu...
D'aventure, et aussi elle perçoit très vite que John Kennedy sera un président qui pourra essayer de concrétiser les idéaux auxquels elle a cru, elle. Car John Kennedy, relativement vite, devient un président qui s'intéresse au désarmement, qui trouve finalement que Khrouchtchev, après des débuts un petit peu difficiles, n'est pas un si mauvais bougre que cela. Kennedy a de la sympathie pour les mouvements de libération nationale qui luttent contre la colonisation dans le monde entier. Et puis John Kennedy est un type extraordinairement séduisant, qui drague d'ailleurs Mary Meyer pendant de longues années, avant de la faire céder enfin, parce que Mary Meyer est une idéaliste, c'est une femme assez romantique elle aussi, et qui connaît en plus la réputation de John Kennedy, qui est quand même un homme à femme, pour dire le moins, et qu'il ne traite pas les femmes toujours mieux que Donald Trump dans toute sa carrière.
Mais elle, ce ne sera pas une maîtresse comme les autres.
Voilà, elle, ce ne sera pas une maîtresse comme les autres, justement parce qu'elle se fait désirer pendant un certain temps par John Kennedy, donc John Kennedy aime ça, et puis, deuxièmement, ils pensent à peu près la même chose, ils ont la même vision idéalisée et idéaliste du monde.
Donc elle a divorcé de son mari, qui lui est toujours membre de la CIA, ils sont amants en 59, Kennedy devient président deux ans plus tard.
En 60, oui.
Voilà, en 60, donc janvier 61.
61, voilà, ouais, c'est ça. Sa fonction, oui.
Et comment son arrivée au pouvoir est perçue par la CIA, l'arrivée de JFK?
L'arrivée de John Kennedy, ouais. elle est perçue de manière... John Kennedy, à l'époque, n'est pas encore l'homme que l'on considère aujourd'hui comme quelqu'un qui a ouvert des portes vers le désarmement international, ouais, etc. Le premier...
Il ne leur fait pas peur tout de suite, quoi.
Non, le premier choc qu'il a à affronter, c'est justement une opération préparée par Alan Dulles, le patron de la CIA, sous Eisenhower, qui est l'invasion de la baie des Cochons à Cuba. Voilà. En janvier, à peine est-il en fonction, que Kennedy voit arriver Alan Dulles, qui lui dit « Monsieur le Président, nous avons un projet ». Alors Kennedy lui dit « Oui, je sais, Eisenhower m'en a un petit peu parlé ». Mais Kennedy doit donner son autorisation, et il donne son autorisation à Alan Dulles d'envahir Cuba. À l'époque, Kennedy est très anticommuniste, il est, même s'il pense que les États-Unis doivent se comporter de manière différente vis-à-vis de l'Amérique latine et du monde en général, il est très anticommuniste, Kennedy. Et donc, il se dit, après tout, Castro est un sale type, on va se débarrasser de lui, et il donne son accord à l'opération de la baie des Cochons, qui est un désastre, parce qu'elle est mal préparée. Au milieu de la crise, Alan Dulles va trouver Kennedy pour lui demander le renfort de l'US Air Force, ce que Kennedy, voyant que l'opération part en quenille, refuse, et Alan Dulles en concevra une certaine... colère à l'égard du président Kennedy, qui ne le vire pas tout de suite de la CIA, alors qu'il en a très envie. Mais tout le monde dit à Kennedy, vous savez, Alan Dulles, c'est un type qui tire toutes les ficelles à Washington. Il connaît tout le monde, il a un pouvoir extraordinaire, donc ne l'affrontez pas tout de suite. Et Dulles reste donc à la CIA.
Donc on a On a un conflit qui est à la fois idéologique, politique, sentimental entre Kennedy et certains membres de la CIA. Pour autant, la CIA a-t-elle commandité son assassinat? C'est ce qu'on va essayer de savoir, d'expliquer tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Elle s'appelait Marie Meyer. Elle a été pendant 4 ans la maîtresse de John Fitzgerald Kennedy. Pourquoi a-t-elle été, elle aussi, assassinée en octobre 1964? C'est ce que notre invité, le journaliste Jean Le Sueur, a voulu savoir. C'est en 1959 que Marie Meyer devient la maîtresse, l'amour caché de JFK. Est-ce qu'ils vont rester amants tout au long de la courte présidence de JFK?
Oui, puisqu'on a même retrouvé très récemment, et la lettre a été mise aux enchères et vendue pour quasiment 100 000 dollars au mois de juin dernier, une note manuscrite de John Kennedy adressée à Marie, écrite au mois d'octobre 1963, c'est-à-dire quelques semaines avant son assassinat, dans laquelle JFK dit « Quand vas-tu enfin me rejoindre de manière définitive ?» donc ce qui prouve que la liaison elle n'a pas été continue, parce qu'il y a eu des moments, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que John Kennedy est un homme marié, donc il n'est pas...
Oui, une certaine Jackie, oui.
Voilà.
Dont on va raconter l'histoire dans un film qui sort après-demain.
Elles se connaissent, d'ailleurs. Jackie et Marie Meyer. Est-ce que Marie Meyer est invitée à la Maison Blanche?
Oui, elles se connaissent de loin. Elles participent même ensemble à quelques dîners officiels à la Maison Blanche. D'ailleurs, à la bibliothèque John Kennedy, là, à côté de Boston, on retrouve des plans de table et des menus où on voit le nom de Marie Meyer qui est assise avec un certain nombre d'autres gens, toujours tout près du président, d'ailleurs. Et Jackie, parfois, est là. Mais souvent, Jackie n'est pas à la Maison Blanche, et alors là...
JFK en profite.
On peut le dire.
Marie Meyer, qui donc avait divorcé de son mari, qui est membre de la CIA, elle savait à quoi s'en tenir quand elle décide de céder à John Fitzgerald Kennedy. Elle savait qu'il continuait d'avoir d'autres maîtresses.
Oui, mais c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Marie a résisté pendant si longtemps aux avances du président, parce que justement elle ne voulait pas être une maîtresse parmi les autres. C'est-à-dire son amour pour John Kennedy attendait que Kennedy montre que ça n'était pas simplement une poupée gonflable comme Marilyn Monroe ou d'autres qui ont jalonné la vie de John Kennedy. Pour elle, c'était une vraie histoire. Marie Meyer, qui est née en 1920, est une femme déjà moderne, dont les idéaux ne sont pas simplement ceux d'être une femme aimante et dévouée, d'un mari qui est un des grands pontes de la CIA, qui ne lui raconte jamais rien d'intéressant sur sa vie, parce qu'il ne peut pas d'ailleurs. Mais Marie est une femme curieuse, c'est une artiste d'ailleurs, qui peint, qui lit beaucoup, et qui se tient à l'affût de toutes les activités de la CIA, parce qu'elle baigne à Georgetown dans cet univers-là. C'est-à-dire, à Georgetown, tout le monde travaille pour l'administration, tout le monde est sénateur, représentant, ministre, sous-ministre, agent de la CIA, journaliste. C'est une espèce de petit univers où tout se sait, tout se raconte, et c'est un monde fascinant, parce que l'Amérique des années 60... C'est quand même, ce sont les maîtres du monde qui sont là. Et Marie vit, baigne dans cet univers-là. Elle est passionnée par cet univers-là. Elle est passionnée par la vision stratégique de John Kennedy. Elle partage sa vie là, ce qu'elle ne fait plus avec Kornmayer, qui ne dit rien par nécessité professionnelle, puisque la CIA, on ne dit rien.
Et le 22 novembre 1963, John Kennedy est abattu à Dallas lors d'un voyage officiel.
Bulletin spécial d'information. Ainsi donc, nos craintes étaient justifiées. Tout le laissait présager. Voici la nouvelle de la soirée. Le président Kennedy est mort. C'est la radio américaine qui vient de l'annoncer il y a quelques instants dans les termes que voici.
The president Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time, which is about 35 minutes ago, after being shot.
Kennedy is died, c'est-à-dire Kennedy est mort.
C'est une archive RTL que vous venez d'entendre. Jean Le Sueur, comment Marie Meyer apprend la nouvelle?
Elle apprend comme la plupart des Américains, parce que John est à Dallas avec Jackie. Elle est à Washington, s'occupe de sa galerie de peinture et de sa peinture. Et elle apprend, comme tous les Américains, par la radio et la télévision, la mort de son amant. Alors, il y a une trace... parce que vous pouvez imaginer à quel point elle est bouleversée quand elle apprend cela. Mais que peut-elle faire? Car à l'époque, on ne sait pas C'est-à-dire, à part Ben Bradley, qui est son beau-frère, puisque la sœur de Marie est mariée avec Ben Bradley, le grand Magnitude du Washington Post, et Ben Bradley n'ignore rien de la vie de John Kennedy, personne ne sait. Elle n'a aucune existence officielle, ni véritablement officieuse, parce que souvent, pour aller à la Maison-Blanche, elle doit se cacher, même s'il y a des complices pour organiser cette double vie du président.
Donc elle ne peut pas poser des questions, demander, donc elle ne peut rien attendre.
Il y a une trace, tout de même, d'un coup de téléphone qu'elle passe à la Maison-Blanche vers 17h, heure locale, alors que Kennedy a été assassiné vers 12h30, heure de Dallas. Et il y a une trace, voilà, de Marie Meyer qui appelle la Maison-Blanche, la secrétaire particulière de John Kennedy, Evelyn Lincoln, qui consigne dans son registre d'appel téléphonique que vers 17h30, Marie Meyer a téléphoné. C'est tout. Alors après, que fait-elle ? Elle est obsédée par les rumeurs.
La recherche de la vérité.
Qu'elle entend. Ouais. Mais, oui, enfin la recherche de la vérité, c'est-à-dire dont elle entend qu'elle n'est pas celle que l'on sert au public américain.
Donc il y a la vérité officielle,
voilà.
Lee Harvey Oswald, un tueur isolé, et puis il y a ce que la rumeur dit dans ce petit monde proche de la CIA, c'est ça ?
Mais c'est la rumeur, ça n'est pas la rumeur de la rue,
oui,
c'est la rumeur de l'univers de Marie Meyer.
Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette
rumeur ? Bien, par exemple, elle sait que Robert Kennedy, dans les heures ayant suivi Dallas, convoque le patron de la CIA qui a succédé à Alan Dulles, et lui demande, est-ce que vous pouvez me jurer que la CIA n'a rien à voir là-dedans ? Marie Meyer, elle entend ça, elle rencontre, elle connaît les gens les plus proches de l'administration Kennedy. Elle-même, son mari, Cord Meyer, qui est le numéro 2-3 de la CIA et qui a beaucoup de choses à se faire reprocher et qu'elle lui reproche, elle, voilà, elle lui parle. Il y a James Jesus Angleton, qui est le chargé de contre-espionnage au sein de la CIA, qui est son voisin à Marie, qui est le parrain d'un de ses enfants, justement. Donc, Marie entend tout ça, et tous les gens de l'administration, tous ses amis, sont des gens qui se disent « Mais qui a pu bien tuer Kennedy ?» Alors, oui, il y a la commission Warren qui se réunit, il y a les conclusions qui implique Lee Harvey Oswald comme seul tireur, et Marie n'en croit pas un mot.
Une commission d'enquête est donc chargée, comme vous l'expliquez, Jean Le Sieur, de faire émerger la vérité sur l'assassinat de Dallas. Son rapport va être analysé de très près par Marie Meyer. On vous donne ses conclusions dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
There was a lot of gossip in Washington.
Il y avait un tas de rumeurs à Washington à propos de JFK. Je crois que c'était un flirt qui est devenu une relation sexuelle. Est-ce un meurtre isolé ou un meurtre prémédité par le gouvernement ? C'est l'un des meurtres les plus étranges que j'ai jamais entendu. C'est un mélange bizarre de sexe, politique, secret et meurtre.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est effectivement une histoire d'amour, de pouvoir, de meurtre que l'on vous raconte sur RTL. L'histoire de Marie Meyer, la maîtresse cachée de JFK, elle-même assassinée le 12 octobre 64, moins d'un an après son amant. Notre invité, le journaliste Jean Le Sieur, a enquêté sur cette histoire pour un livre, Un meurtre à Georgetown, qui est publié aux éditions de l'Artilleur. On parlait de la commission juste avant la pause, cette commission d'enquête qui est créée après la mort de Kennedy, la commission Warren. Déjà, pour comprendre comment elle va fonctionner, qui en sont les membres principaux ?
Mais alors, commission Warren, du nom de Earl Warren, qui est le patron des juges de la Cour suprême. Il y a également un personnage qui deviendra célèbre, Gerald Ford, qui n'est encore que représentant du Michigan républicain, mais qui deviendra vice-président de Nixon, puis président dans les conditions que l'on sait. Et il y a surtout, et c'est ça qui est quand même étrange, Alan Dulles, donc ancien directeur de la CIA. Viré par Kennedy, parce que Kennedy ne pouvait plus supporter d'abord ses activités parallèles, parce que la CIA avait pris l'habitude de se livrer à des activités sans en parler au président. D'ailleurs, on rapporte, et je raconte, mais ça, il faudrait probablement une enquête très approfondie, que la CIA a joué un rôle dans le coup d'État du... Enfin, la tentative de coup d'État de ce Carteron de généraux en retraite, vous vous souvenez, oui. Salan et compagnie, mmh. contre De Gaulle,
Algérie,
parce que Kennedy avait une certaine sympathie pour la cause de l'indépendance de l'Algérie. La CIA ne pouvait pas supporter ça, parmi autres causes qu'elle voulait combattre dans le monde entier. Donc,
ce Dulles est membre de cette commission Warren.
Est membre de cette commission, à la suite
absurde.
Dont on ne sait trop quelle manœuvre, puisque c'est Lyndon Johnson qui nomme les gens, Lyndon Johnson, le nouveau président, mmh. et alors Alan Dulles se retrouve là, parce que en tant qu'ancien patron de la CIA, même s'il détestait Kennedy, il connaît un petit peu, il fait croire qu'il va pouvoir démêler cet écheveau pas possible.
Alors, est-ce qu'ils y arrivent ? Quel est le rapport que remet la commission Warren sur l'assassinat de JFK?
Eh bien, ils font porter l'entière responsabilité du meurtre sur Lee Oswald, qui a effectivement tiré sur le président, ça, il n'y a pas de doute véritable là-dessus. Mais y avait-il un autre tireur de l'autre côté, avec un autre angle de tir? Oui, probablement. Et d'ailleurs, des années plus tard, entre 76 et 78, quand... un certain nombre de gens révèlent des choses sur Dallas. Le Parlement américain, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, enfin c'est la Chambre des représentants, lance une enquête pour réviser les conclusions de la commission Warren. Et les conclusions sont que, même s'ils ne peuvent pas prouver que la CIA en tant qu'institution, ou le FBI, ou je ne sais qui, n'a joué un rôle dans le meurtre de Dallas, il conclut qu'il y a eu un complot et que des individus appartenant à ces institutions ont pu jouer un rôle dans le complot. Alors, il n'identifie personne, mais Alan Dulles est évidemment la première personne soupçonnée.
Et Marie Meyer, quand elle prend connaissance du contenu de ce rapport,
eh ben alors
comment réagit-elle ?
On est 3 semaines avant son assassinat.
Oui.
Elle hurle partout, près de tous ses amis de Georgetown. Elle dit, mais enfin, c'est un scandale. Elle téléphone à son ex-mari, Kornmayer, pour l'engueuler. Alors, son mari lui dit, mais tu es folle, tu dis n'importe quoi, etc.
Est-ce qu'elle a, elle, grâce à son expérience, grâce aux indiscrétions qu'elle a pu glaner ici ou là, des certitudes pour réagir comme ça ?
En tout cas, elle est obsessionnelle au point de réunir tout un tas d'articles, de témoignages qu'elle recueille encore une fois auprès des gens qui sont très proches des services de renseignement et très proches de l'administration Kennedy et de Robert Kennedy, qui est lui-même obsessionnel aussi sur l'idée du complot. Et elle collecte tout ça et elle en parle. Et elle en parle probablement trop. Elle en parle tellement que lorsqu'elle est assassinée, la première chose que fait James Angleton...
Ah, il ne faut pas raconter ça, on va se garder pour tout à l'heure.
Moi, je voudrais savoir,
c'est cette trop vite.
Mary Meyer, forcément, comme nous, on l'a tous fait avec beaucoup moins d'infos, il y a un scénario qui se met en branle dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle imagine de l'assassinat de son amant, de l'homme de sa vie, JFK ?
Mais d'abord, elle sait de quoi les hommes comme son mari sont capables. Oui. Voilà, elle sait de quoi les grands patrons de la CIA, qui pendant des années, depuis 1945, ont fait à peu près ce qu'ils ont voulu dans le monde, dans le tiers-monde, en Amérique latine, en Afrique, et même en Europe. Elle sait de quoi ces gens-là sont capables.
Donc ils sont capables de tuer.
Elle connaît le cynisme, mais ils ont tué beaucoup de gens. Patrice Lumumba, ils ont tué le président du Guatemala, ils ont fait un coup d'État en Iran, et puis beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Elle sait de quoi ces hommes-là sont capables. Et elle sait aussi que plus Kennedy avançait dans son mandat, plus il se mettait à dos par sa politique, encore une fois, qui favorisait le désarmement général, par sa politique vis-à-vis de l'Amérique latine, où Kennedy pensait que la meilleure manière de lutter contre le communisme, c'était de rendre les gens un petit peu plus heureux, un petit peu moins pauvres, et donc ils se tourneraient forcément moins vers les communistes. Mais ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre de grandes multinationales américaines, comme on dit aujourd'hui, ne voulait pas entendre parler. Et Kennedy, lui, a lancé même un programme qui s'appelait l'Alliance pour le Développement, qui était orienté sur, justement, le développement de l'Amérique latine pour que les gens ne se tournent pas vers le communisme. Et il y a un autre élément qui est fondamental, c'est que Kennedy, après toutes les tentatives connues ou non connues faites pour renverser Fidel Castro, a décidé et a informé tous les immigrés cubains, tous les gens de la CIA, tous ceux qui complotaient contre Fidel Castro, qu'il n'était plus question de donner la moindre aide logistique aux gens qui envisageaient de renverser Fidel Castro. Et ça, pour ces gens-là, c'est une trahison. Vous savez, quand Alain Delos, il commence avec Kennedy par la baie des cochons et qu'il se retrouve avec un président. Alors, lui n'est plus patron de la CIA, mais il continue à faire la pluie et le beau temps. C'était une espèce de seigneur extraordinaire, Alain Delos. Même à la retraite, il tirait toujours les ficelles. Eh bien, ces gens-là décident que Kennedy est un obstacle à leurs intérêts et à leur vision aussi de l'Amérique toute puissante dans le monde entier, et il faut se débarrasser de lui.
Voilà ce que Marie Meyer a en tête dans les semaines qui précèdent sa mort. Elle sera elle-même assassinée le 12 octobre 1964. C'est ce qu'on vous raconte tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle que l'on raconte dans la curiosité avec un éclairage édifiant. Pour comprendre comment et par qui John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, notre invité a remonté la piste de son amour caché, de celle qui était sa maîtresse depuis 1959, Marie Meyer. Vous nous racontez, Jean Le Sieur, vous êtes journaliste, ce 12 octobre, le jour où elle est assassinée, comment ça se passe? Elle va être piégée?
Elle sort de son studio de peinture où elle peint tous les jours, et tous les jours elle sort vers midi pour aller se promener au bord du Potomac. Et ce jour-là, tout d'un coup, quelqu'un la rejoint par derrière, lui tire deux coups de feu et elle est morte quasiment sur le coup. Alors évidemment la police, qui ne sait pas qui est Marie Meyer encore, mais la police se précipite tout de même, c'est un meurtre en plein jour, dans un endroit relativement public. La police se précipite et arrête un pauvre bougre qui passait par là, un jeune noir de 25 ans. Et très vite, il est inculpé et il sera jugé pour meurtre et acquitté. Ce qui quand même est assez rare, parce qu'un jeune noir, en 1964, à Washington, qui assassinerait une femme blanche, comme ça, en général, on ne s'en tire pas.
Sur quelle base il est arrêté? Sur un témoignage?
Alors, il est arrêté sur un témoignage, car il y a quelqu'un qui entend les deux coups de feu, qui se précipite et qui est au-dessus du canal et qui voit une vague silhouette d'un noir qu'il décrit plus ou moins à la police. Et il est frappé par le fait que ce personnage part très tranquillement après avoir tiré dans le dos de cette femme. Alors que Ray Crump, lui, qui est arrêté, est assez fébrile, est assez... Mais le lendemain du meurtre, un témoin se présente spontanément, après avoir lu soi-disant un article sur le meurtre, et il dit « Mais je sais, moi, j'ai vu en effet un noir qui ressemble beaucoup à la personne qui a été arrêtée, qui suivait Marie Meyer. » Bon, alors ce personnage est un personnage absolument fascinant, parce que son témoignage, est évidemment, joue un rôle clé dans l'inculpation de Ray Crump, mais on s'apercevra...
Qui est-il, ce témoin
c'est
spontané?
C'est quelqu'un qui fait son jogging, qui est militaire au Pentagone, qui est très loin de l'endroit où Marie Meyer est assassinée. Donc pourquoi fait-il son jogging là? On n'en sait trop rien. Mais on s'apercevra plus tard que, en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour les services de renseignement de l'armée américaine. Donc on peut se poser des questions sur la véracité de son témoignage.
Donc ils ont... volontairement, on peut dire ça, orienter la justice sur une fausse piste, puisque finalement, ce Ray Crump sera innocenté et ça a permis de ne pas faire vraiment l'enquête, quoi,
voilà,
sur l'assassinat de Marie Meyer.
Et à dessein, évidemment, puisque c'est un coup monté. Donc, alors, un des éléments qui laisse à penser que c'est un coup monté aussi, c'est que le soir même de la mort de Marie Meyer, sa sœur, qui habite à côté d'elle, reçoit un coup de téléphone de quelqu'un, d'une vieille amie, qui est à Tokyo, en fait, et qui lui dit « Il faut absolument aller à la maison de Marie, car elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher son journal intime. » Et donc, Toni Meyer, la sœur donc de Marie, va à la maison. Et que trouve-t-elle? Qui trouve-t-elle en train d'essayer d'entrer par effraction dans la maison? James Angleton, qui est à la recherche lui-même du journal intime de Marie Meyer, dans lequel...
Vous rappelez qui est James Angleton?
Alors James Angleton, qui est un des complices, ou un des comparses, ou un des collaborateurs de Dulles et de Kordmeyer à la CIA, et qui lui-même cherche le journal, qu'ils ne trouveront pas, soi-disant. Ils vont même le rechercher le lendemain dans le studio qui est à l'arrière de la maison de Toni. Et qui trouve-t-il encore en train d'entrer par effraction, James Angleton, qui cherche absolument ce journal intime, qui ne sera jamais vraiment retrouvé, quoique on pense qu'il a été retrouvé. Et dans ce journal intime, il y avait tout ce que Mary Meyer pensait de l'enquête de la commission Warren, du complot contre son amant John Kennedy, et qui confirmait tout ce qu'elle disait à haute voix, probablement à trop haute voix, ce qui l'a mené à ce rendez-vous tragique au bord du Potomac.
Oui, mais 50 ans après les faits, qu'est-ce qu'on sait finalement de l'implication de la CIA officiellement dans ce double meurtre?
Officiellement,
Mary
Meyer
et John Fitzgerald Kennedy.
L'enquête a été classée, ça fait partie de ce qu'on appelle les cold cases. C'est l'énigme policière la plus spectaculaire de toute l'histoire de Washington, probablement. Mais un certain nombre de gens ont quand même enquêté, fouillé les fonds de tiroirs et les fonds des dossiers, etc. Et je crois que la version que je raconte est assez proche de la vérité.
Par exemple, Jack Ruby, qui a tué Lee Harvey Oswald, est-ce qu'il avait indirectement des liens avec la CIA ?
Vous savez, Jack Ruby a même fait une conférence de presse peu de temps avant de mourir, dans laquelle il proclamait qu'il avait été... utilisé, manipulé par des gens dont il pouvait donner les noms, dont il donnerait les noms, et il est mort d'un cancer foudroyant peu de temps après avoir dit ça. Mmh. Jack Ruby, qui devait témoigner devant la commission Warren, et qui, quand la commission Warren s'est déplacée exprès jusqu'à Dallas pour le voir, il a dit à Gerald Ford, à Earl Warren et aux autres, il a dit « Je vous en supplie, amenez-moi à Washington, ici je ne suis pas en sécurité. » Et Warren, Dulles et Gerald Ford et les autres lui ont dit « Mais vous savez, on n'a pas les moyens de faire ça, puis vous êtes inculpé pour meurtre ici, on ne peut pas vous déplacer et vous ne serez pas plus en sécurité à Washington qu'à Dallas. »
Que sont devenus les enfants de Mary Meyer, son ex-mari, Cord Meyer ?
Alors l'ex-mari s'est remarié et il est mort... bouffé par l'alcool, le tabac, les remords, une vie quand même assez diabolique. Et quant aux enfants, bien les deux survivants, puisqu'il y en a un qui est mort à 9 ans, mais alors dans un accident de voiture, qui lui n'est absolument pas suspect, c'est juste un drame épouvantable. Les deux autres enfants ont un peu disparu, d'après ce que je sais, sont un peu noyés dans la religion, New Age, des choses, en tout cas ils ne veulent voir personne. Ce qui est d'ailleurs le destin souvent des enfants de ces gens qui ont eu des vies infernales et diaboliques à la fois, parce que Angleton, c'est la même chose. Il a des enfants qui sont devenus un peu, oui, New Age, enfin, mais qui sont sur une autre planète.
Dans votre livre, Un meurtre à Georgetown, vous publiez quelques photos et il y en a une qui est assez émouvante. C'est finalement le lieu où Mary Meyer a été assassinée. Il y a quoi aujourd'hui sur les bords du Potomac ?
Rien, c'est toujours un chemin où se promènent les joggeurs, les amoureux et les promeneurs. C'est une promenade très agréable.
Il y a une croix blanche ?
Oui, il y a une croix blanche. Mais j'ai reconstitué, j'ai même réussi à entrer dans la maison où son studio d'artiste était et j'ai refait le parcours qu'elle a fait juste avant de se faire assassiner. Et c'est vrai que c'est une promenade très agréable aujourd'hui, mais quand on pense à ce qui s'est passé, on est quand même un peu terrifié.
Merci beaucoup Jean Le Sieur. Un meurtre à Georgetown, contre-enquête sur la mort de Mary Meyer, c'est donc publié aux éditions L'Artilleur. Merci.
Vous écoutez RTL.